Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Célier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue, c'est parti pour 2 heures d'infos dans RTL Soir avec à la une cet entretien RTL. Notre invité de 18h15 sera Séverine Morel. Son mari Cyril fait partie des 3 gendarmes abattus en décembre 2020 dans le Puy-de-Dôme, abattus par un forcené surarmé. On les a envoyés à la morgue, estime Séverine. Elle s'interroge sur le sous-équipement, sur le manque d'infos sur le terrain ce soir-là. Elle porte plainte et réclame des explications à la hiérarchie. Les autres titres de l'actu à suivre maintenant dans votre journal. Bonsoir Agnès Bonfillon.
Alors bonsoir Julien, bonsoir à tous. Il n'y a pas de système, il y a simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse avec des femmes. Cette fois, c'est l'ancien patron de TF1, Nonce Paolini, qui charge l'ancien présentateur vedette Patrick Poivre d'Arvor chez nos confrères de Mediapart. À suivre aussi, des appartements rendus inhabitables pour déloger les squatteurs. Reportage dans la cité Caliste à Marseille. Une absence très remarquée au Parlement britannique ce matin. Le prince Charles a remplacé sa mère, Elisabeth II, pour la lecture du discours du trône. Et puis le café à la machine devient de plus en plus cher. On vous dira pourquoi.
Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous de la vaccination des poulets, des canards, des oies. Premier test d'un vaccin anti-grippe aviaire dans le sud-ouest. 18h40, on va défaire le monde, l'actu autrement. Cyprien Sini et la bande dans les starting blocks. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on va défaire le bracelet électronique. Il menace François Fillon. A conduit Patrick Balkany en prison. À quoi ça ressemble? Comment ça marche? Vous allez tout savoir. Au menu également, la large, trop large victoire du club de foot d'Arles. 22 à 1. Oui, oui, 22 à 1, c'est du foot. Et on vous fera écouter le bruit d'un trou noir. Et alors, je vous préviens, ça donne pas envie.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et ses polémistes. La météo deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance pour demain.
Encore de bonnes nouvelles, beau et chaud.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Célier.
Agnès Bonfillon.
Elles sont 20 femmes à témoigner ensemble dans une émission de Mediapart dans une heure très exactement. La majorité face caméra, chacune raconte avoir été agressée, violée ou harcelée par Patrick Poivre d'Arvor. Deux d'entre elles étaient mineures au moment des faits. Autre témoignage choc de nos confrères, celui de Nonce Paolini, on le disait, l'ancien patron de TF1 qui charge l'ancien présentateur Nerissa Imani.
Oui, Nonce Paolini dit comprendre la souffrance de ces femmes. Il assure ne pas avoir été au courant au moment des faits présumés, sinon des sanctions auraient été prises. Je cite, il y a simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse avec des femmes dans différents contexte sans que personne ne puisse le savoir puisque ces femmes ne s'exprimaient pas. C'est la première fois que l'ex-PDG de TF1 prend la parole depuis le début de l'affaire il y a plus d'un an.
Pour en revenir à ces 20 femmes présentes en plateau ensemble, la majorité a porté plainte contre PPDA ?
Oui, à ce jour, 17 de ces femmes ont porté plainte, dont 8 pour viol. Seulement voilà, les faits remontent parfois aux années 80, 16 plaintes ont été classées l'an dernier pour prescription ou manque de preuves, mais la justice continue à travailler sur 4 autres plaintes et ce soir, certaines vont s'exprimer alors qu'elles ne l'ont jamais fait publiquement, comme cette enseignante.
Être ici aujourd'hui à visage découvert, c'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur et que je maintiens mon témoignage, à savoir qu'il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans, et qu'il m'a agressée sexuellement dans son bureau à l'âge de 24 ans.
De son côté, Patrick Poivre d'Arvor conteste tous les faits qui lui sont reprochés. Il a déposé une plainte en avril dernier contre 16 femmes qui ont témoigné pour dénonciation calomnieuse.
Les explications de Nerissa Emani pour RTL. Le ministère public requiert le renvoi devant la Cour de justice de la République d'Éric Dupond-Moretti, l'ancien avocat et actuel garde des Sceaux, est mis en examen, je vous le rappelle, pour prise illégale d'intérêt.
Il y a une semaine, nous avons été les premiers sur RTL à vous raconter l'enfer vécu par certains habitants d'une cité des quartiers nord de Marseille.
Délogés de leur appartement par des squatteurs extrêmement violents.
On est parti un week-end voir ma sœur sur Valence. La voisine nous appelle en panique. Venez, venez, l'appartement était squatté. La porte éclatée, blindée. Il ne voulait pas sortir. Et il me disait, my house, c'est ma maison.
Finalement, la pression médiatique n'y est pas pour rien. Les forces de l'ordre sont intervenues aujourd'hui, Étienne Baudu, dans cette cité Caliste.
Oui, on peut imaginer que le calendrier a été légèrement bousculé. Ce sont 104 locataires sans titre, très exactement, dont une vingtaine de femmes et d'enfants qui ont été expulsés ce matin dans le calme des 36 squats qu'ils occupaient. Ils ont été transportés avec leurs maigres bagages vers deux gymnases de la ville où le parcours de chacun sera examiné au cas par cas. Cette vaste opération a mobilisé près de 150 policiers, mais aussi des travailleurs sociaux, des déménageurs pour débarrasser les appartements et même des ouvriers pour dévitaliser les logements, les rendre inaccessibles, explique le préfet Christophe Miremont.
Le travail qui va être conduit par l'opérateur, c'est la démolition des cloisons, la neutralisation des canalisations, des conduits d'eau et d'électricité pour faire en sorte que ces appartements ne soient pas à nouveau réoccupés.
Car à terme, ce bâtiment G doit être démoli. En attendant, les habitants du quartier sont soulagés de ces départs.
Eh bien, pour la tranquillité quand même et tout, ouais, regardez les bagarres qui se passent. La semaine passée, il y a eu des tirs. Ma voiture, elle s'est pris 7 balles de Kalachnikov. Bien sûr que ça nous rassure. Hein. On pense qu'il n'y aura plus ces bandes rivaux qui se tirent dessus. Hein.
Reste à savoir si ces migrants, dont beaucoup sont sans papiers, ne vont pas à nouveau s'évaporer dans la nature.
Le reportage à Marseille d'Étienne Baudu pour RTL.
RTL Soir.
À la une également cette formation bouclée ensemble.
Conseils pratiques, photos de famille, les candidats de la majorité présidentielle pour les législatives ont passé la journée au doc d'Aubervilliers où Emmanuel Macron doit les rejoindre d'ailleurs d'une minute à l'autre. Va-t-il leur donner un autre indice sur le prochain Premier ministre, puisqu'il connaît le nom du prochain locataire de Matignon. D'ailleurs, peut-être que les candidats autour de vous, Thomas Després, en savent un petit peu plus ?
Pas vraiment, mais à défaut d'en savoir plus, ici tout le monde se prête au petit jeu des pronostics. Et cet après-midi, un nom revient à plusieurs reprises, celui de Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé de François Hollande, au gouvernement en même temps qu'un certain Emmanuel Macron. Elle était d'ailleurs présente au premier rang lors de la cérémonie d'investiture ce week-end. Un profil plutôt de gauche qui cocherait deux cases dans le portrait chinois donné par le président. C'est une femme, ça ne vous a pas échappé, à la fibre sociale, mais elle a un inconvénient. Elle n'incarne pas vraiment le renouvellement des visages prônés par le chef de l'État. Et puis quoi encore? Pourquoi pas Manuel Valls, tant que vous y êtes, a même lâché un député tout à l'heure. Autre nom glané cet après-midi, Audrey Azoulay. Elle aussi, c'est une ancienne ministre de François Hollande. Elle a 49 ans, aujourd'hui directrice générale de l'UNESCO. Un bon profil, juge un candidat, à moins que ce ne soit finalement Elisabeth Borne. Son nom revient depuis plusieurs semaines. L'actuelle ministre du Travail a-t-elle le profil idéal pour le job? Possible, même si en réalité je pense que personne ne sait vraiment reconnaître un député lucide, sans doute le secret le mieux gardé de la République, même si c'est vrai que l'enjeu est de taille.
Merci Thomas Després, en direct pour RTL.
L'inflation jusqu'à la dernière goutte, tout augmente, même la pause café entre collègues, on vous explique tout juste après ça, tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier.
Ils ont là.
Julien Cellier,
RTL Soir.
18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir. La dernière fois qu'Elisabeth II n'avait pu lire le discours du trône, c'était en 1963. Elle était alors enceinte. Et bien ce matin, la souveraine, 96 ans, a renoncé pour des problèmes de mobilité.
Et c'est le prince Charles qui, pour la première fois, a lu ce discours donc au Parlement. Moment très important dans la monarchie constitutionnelle qui donne les grandes lignes du gouvernement britannique. C'est très protocolaire, Marie Billon. D'ailleurs, la cérémonie, elle, a été la même.
Oui, le prince Charles a été accueilli par un God Save the Queen devant le Parlement, puis par les trompettes habituelles, mais il était en habit militaire. Pas question évidemment de porter le manteau d'Hermine ni la couronne impériale qui l'a précédé sur un coussin. Tout ça n'appartient qu'à la reine. Mais les traditions n'ont pas fait défaut. En effet, l'humiliation rituelle de Black Rod, le représentant de la monarchie au Parlement, a bien eu lieu. Ce personnage est chargé de convoquer les députés pour qu'ils aillent écouter le discours du trône. Les élus lui ferment littéralement la porte au nez pour symboliser l'indépendance du Parlement face à la couronne. Après trois coups de sceptre sur la porte, Black Rod fait son office et les députés obéissent. Ils sont donc arrivés deux par deux à la Chambre des Lords où le prince Charles les attendait plus bas que celui que la reine occupe normalement. Il aurait dû rester vide aujourd'hui. Il a finalement été retiré au dernier moment. Autre changement de dernière minute, le prince de Galles devait lire un avertissement au début du discours. J'emploie les mots de la reine. Il aurait donc dû dire « mon gouvernement », mais il a finalement lu un discours au nom de sa majesté. La reine, qui brillait déjà par son absence, a su montrer qu'elle restait chef d'État malgré tout.
Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine n'a pas l'intention de s'arrêter à la région du Donbass. Selon la chef du renseignement américain, le président russe veut porter le conflit jusqu'à la Transnistrie, région de la Moldavie. Par ailleurs, il pourrait prochainement imposer la loi martiale dans son pays.
Il n'y a pas qu'à la pompe que les prix flambent, à la machine à café désormais également.
10 à 20% supplémentaires. Oui, on peut parler de flambée, ce qui fait 5 à 10 centimes par gobelet. Alors comment expliquer cette hausse ? Comme toutes les matières premières en ce moment, le café augmente ? Ce serait beaucoup trop simple, Pierre Herbulot.
Oui, ce serait réducteur même. En fait, le café a la malchance de cumuler un peu tous les problèmes à la fois. Une catastrophe climatique avec un gel ultra-violent l'an dernier au Brésil, premier producteur mondial. La récolte est ultra faible, les cours flambent, plus 90% pour l'Arabica, plus 40% pour le Robusta. 2, la crise Covid. Le café arrive par bateau d'Amérique ou d'Afrique et le prix des conteneurs a explosé, fois 6 en moins d'un an. Et puis 3, la guerre en Ukraine et ses conséquences. Raoul Mazer dirige Proxipose. Il va augmenter le prix des cafés de ses 30 000 distributeurs automatiques.
On a aussi, bien sûr, l'augmentation de l'énergie qui contribue à la fois à la fabrication du café. Quand on prend du café vert, on le torréfie, il y a une grosse part de l'énergie, c'est une grosse part du prix du produit qui est à 90% de hausse, qui évidemment se répercute pour nous sur les coûts de transport.
Dernière explication, l'inflation elle-même, elle entraîne une revalorisation des bas salaires, ça fait légèrement gonfler la masse salariale. Bref, autant de raisons qui justifient, d'après les entreprises et les industriels, cette augmentation du prix du café.
Merci beaucoup Pierre Herbulot pour ces explications.
Allez, on va continuer de parler gros sous, on va parler football maintenant, parce que c'est désormais officiel, la Ligue des Champions fera peau neuve dès 2024.
Une nouvelle organisation sportive pour encore plus de profits dans les caisses des clubs européens. Compétition casse-tête, Christian Olivier.
Le président de l'UEFA, Alexander Seferin, est turc et en turc, je ne sais pas comment traduire, usine à gaz, mais il y a un langage universel, c'est celui de l'argent. Et avec cette nouvelle formule, c'est évidemment l'assurance de profits encore plus juteux, billetterie, sponsor et recette TV, vache à lait du football professionnel. En gros, en 2024, la compétition proposera 189 matchs au lieu de 125 aujourd'hui. Mini-championnat avec 36 équipes contre 32 et 8 journées contre 6 actuellement. Les 8 meilleurs seront qualifiés et séance de rattrapage pour ceux qui se classeront de la 9e à la 24e place via des matchs de barrage. Est-ce que vous me suivez ? Enfin, il y aura là les 8e, les quarts, demi jusqu'à la finale. Ouf, on a échappé à la formule de la finale à 4 sur une semaine, époque Covid Lisbonne. Souvenez-vous avec le Paris Saint-Germain. Vous l'avez compris, la version revue, corrigée, Ligue des Champions, c'est moi, il y en a vouloir encore plus de sous. De quoi calmer les clubs félons qui souhaitaient, il y a quelques mois encore, lancer leur propre ligue fermée. Mais bon, ça durera ce que ça durera.
Effectivement, jusqu'à qu'on trouve une formule encore plus lucrative, cher Christian. Merci beaucoup Agnès, à tout à l'heure. Le temps pour demain. Peggy,
encore
ça dit
très
quoi ?
Beau. Alors je disais bonne nouvelle tout à l'heure, évidemment, pas pour les agriculteurs parce qu'on a besoin d'eau dans les sols et on n'en aura vraiment quasiment pas. Encore une journée estivale demain. Seule exception, la Bretagne le matin jusqu'au Pays de la Loire et la Normandie l'après-midi avec un ciel couvert et de très faibles pluies. Mais ailleurs, on aura du soleil après dissipation des grisailles matinales entre la côte atlantique et la Manche la matinée. Juste quelques averses résiduelles possibles dans l'après-midi sur les reliefs des Alpes du Sud et de la Corse. Et sinon, du soleil pour tout le monde. Les températures minimales de 8 degrés à Reims, à 15 à Nice, 11 à Nantes et Biarritz, 14 à Paris et Lyon. Les maximales jusqu'à 32 degrés demain après-midi à Auch, 31 à Montauban, 30 à Toulouse, 29 à Limoges, 27 à Paris et Marseille, 25 à Bastia, 22 à Nantes et 18 à Brest.
Merci Peggy. Petite pause et puis ensuite ce document RTL. Notre invité sera Séverine Morel. Son mari, Cyril, fait partie des 3 gendarmes abattus par un forcené. C'était il y a un an et demi. On en avait beaucoup parlé sur RTL dans le Puy-de-Dôme. Étaient-ils assez équipés ce jour-là, les gendarmes ? Est-ce qu'ils étaient assez renseignés sur l'armement de ce tueur ? Est-ce que la hiérarchie a failli ? Séverine porte plainte et réclame des explications. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir.
Avec Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL, 18h, 18 minutes et maintenant le combat d'une femme. Notre invité est Séverine Morel, son mari Cyril était gendarme, il a été tué en décembre 2020 par un forcené. Elle est persuadée que ce drame pouvait être évité. Bonsoir Séverine Morel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous portez plainte contre X, vous attendez des explications des autorités. Nous allons échanger ensemble dans un très court instant. Juste avant, on va rappeler les faits à nos auditeurs et poser quelques questions à Thomas Proutot, le chef du service police-justice qui est avec nous en studio. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Ce 22 décembre 2020, les gendarmes sont donc appelés à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme.
Oui, c'est un couple qui les a alertés. Leur voisine a été victime de violences de la part de son compagnon et s'est réfugiée sur le toit, d'où elle a envoyé un message. Il fait nuit, il est 20h45, en plein hiver, l'homme est dangereux et armé. C'est ce que le couple indique aux forces de l'ordre. On est dans un hameau, tout le monde se connaît. Les voisins préviennent aussi de la présence de deux molosses. Trois gendarmes de la brigade d'Ambert se rendent sur place. Ils sont rapidement renforcés par le PSIG, le peloton d'intervention d'Ambert, dont fait partie le lieutenant Morel, dont nous allons entendre la veuve dans un instant, puis encore d'autres patrouilles.
Le forcené est lourdement armé. Est-ce que les gendarmes sur le terrain en sont alors conscients ?
Pas tous et pas dans le détail. C'est le cœur de la plainte de Séverine Morel. Dès 20h45, le mari du couple de voisins, qui est lui-même policier, évoque un fusil d'assaut. Dès 21h30, il précise le modèle, un fusil mitrailleur AR-15 9 mm, et décrit le reste de l'arsenal. Informations précises qui ne seront répercutées que 45 minutes plus tard, selon la plainte. Jusque-là, certains gendarmes pensaient intervenir sur des violences conjugales. Entre 22h30 et 23h, une fusillade éclate. Le forcené mettra le feu et prendra la fuite dans un Land Rover où il se suicidera quelques heures plus tard. Autour de la maison, trois gendarmes sont retrouvés morts. Tous leurs proches aujourd'hui ont décidé de déposer plainte.
Merci Thomas. Séverine Morel, je reviens vers vous. Parmi ces trois gendarmes tués, il y avait donc votre époux. On vient d'entendre le compte-rendu de cette terrible soirée par Thomas. Vous avez la sensation que le pire pouvait être évité ?
Eh bien, disons qu'on a l'impression que la communication a pas très bien fonctionné, en fait. Mais ça, on ne peut pas savoir, puisqu'on nous a refusé la reconstitution pour les faits de ce soir-là. Donc, en fait, nous, on s'est fait un déroulement de ce drame-là, mais dans l'attente d'avoir une vérité. Et pour l'instant, on ne sait pas, en fait.
Vous dites on ne sait pas. J'imagine que vous avez échangé avec la hiérarchie de votre mari. On dit souvent que la gendarmerie, c'est une grande famille, mais quand on demande des explications, c'est plus compliqué ?
Non, il n'y a eu aucune communication avec la hiérarchie. On nous a simplement dit que nos maris et le fils, donc les trois gendarmes qui ont été tués, ont fait leur travail. Et voilà ce qu'on nous a dit. On n'est pas rentré dans les détails et c'est aussi pour ça que quelques jours après, on a décidé, enfin pour ma part, j'ai décidé de me porter partie civile pour avoir plus de renseignements. Parce qu'on savait que la gendarmerie ne voulait rien nous dire et ne voulait rien nous expliquer.
Parce que vous avez besoin d'explications et j'imagine que vos deux enfants qui sont adolescents, ils ont
Exactement.
Aussi besoin de comprendre.
C'est ça. J'ai un fils de 13 ans et une fille de 16 ans qui tous les jours me posent des questions et on n'a pas de réponse à leurs questions. Et puis aussi pour plus tard, quand mon fils sera plus grand, s'il a des questions et auxquelles je ne peux pas répondre, ça va être très compliqué à vivre. Et
il y a quelques mois, vous avez eu ces mots qui sont très forts. Vous avez dit, on les a envoyés à la morgue. C'est votre sentiment ? Ils n'étaient pas assez équipés face à ce forcené ?
Non, mais ils ne le sont pas, ils ne l'étaient pas et ils étaient surtout pas prévenus d'un tel armement que pouvait avoir ce tueur, en fait. Ils interviennent sur un différend familial et les gendarmes ne savent pas qu'il est armé, ils ne pensent pas arriver sur quelqu'un qui est aussi entraîné que cet homme-là, en fait. Et eux n'ont pas de gilet pare-balles pour se protéger, de casque lourd, ils n'ont pas tous ces moyens-là, ou de lunettes à vision nocturne. Il faut savoir qu'il fait nuit noire, on est en plein hiver et que l'éclairage public ne fonctionne pas.
D'autant que la femme du tueur envoie des messages à la gendarmerie et elle leur dit il est très armé, il est entraîné pour tuer. Et ces messages, finalement, arrivent sur le terrain de longues minutes plus tard.
Oui, alors elle ne le dit pas forcément tout de suite, en plus, quand on y sont prévenus la première fois. Donc, là aussi, on trouve ça un peu surprenant que ce ne soit pas mentionné tout de suite au départ. Et ensuite, il y a un problème de communication avec le COG de Clermont-Ferrand.
J'imagine que cette soirée, elle vous hante, ce 22 décembre. Votre mari, il était chez vous, il était de permanence, comme l'a dit Thomas, et donc il a été appelé, et à ce moment-là, votre vie a basculé.
Exactement, toute une vie bascule, et puis on n'arrive pas à faire notre deuil, en fait, parce qu'on a tout le temps beaucoup de questions, tous les jours. Il n'y a pas un jour où qui se passe sans qu'on ait de questions et qu'on se refait le film de cette nuit, qu'on essaye de savoir pourquoi ça s'est passé et comment ça s'est passé.
Et cette nuit-là, au moment où votre mari était sur le théâtre de l'opération, j'ai lu que vous aviez un mauvais pressentiment.
Eh bien, c'est-à-dire que quand plusieurs fois auparavant, sur plusieurs interventions, votre mari vous dit qu'il manque de moyens ou que les véhicules sont pas adaptés ou que certaines fois ça peut être compliqué sur certaines interventions, vous vous dites que peut-être qu'un jour va arriver où il ne reviendra pas, en fait, de manque de moyens et de manque d'hommes aussi.
Et ce soir-là, vous appelez d'ailleurs le centre d'opération, vous avez un collègue de votre mari, et c'est là que vous comprenez que l'opération est risquée.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ben d'habitude il me dit quand il part et tout, et puis là j'appelle un ami qui travaille au centre d'appel.
Parce que vous n'avez pas de nouvelles à ce moment-là.
Exactement, ouais. C'est ça. Et puis là il me dit que qu'il y a quelque chose qui se passe sur Amber et les alentours, et oui, il y a une intervention qui est importante.
Et en pleine nuit, on vient vous annoncer ce soir-là son décès.
Exactement, mais on nous annonce son décès à 2h du matin, alors que l'information arrive en gendarmerie à 23h, apparemment.
Votre mari, c'était un gendarme qui était reconnu par ses collègues, et c'était aussi visiblement un super papa. Les rares fois où vous avez pris la parole, Séverine, vous avez souligné son dévouement, son rôle de papa poule.
Oui, c'est un homme exceptionnel. Il avait vraiment la vocation de son métier, en fait. C'était plus qu'un métier, c'était vraiment une passion. Il a toujours fait son travail très correctement. Il n'a jamais eu de réprimande ou de mauvais travail à ce sujet-là. Et puis avec ses enfants, il était très impliqué. Il avait une énorme présence avec ses enfants. Et aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, justement.
Merci Séverine Morel d'avoir été ce soir notre invitée dans RTL Soir. Vous déposez plainte contre X après donc la mort de votre mari gendarme qui tentait de sauver ce soir-là et qui a sauvé ce soir-là une femme en détresse. C'était en décembre 2020 dans le Puy-de-Dôme. Merci de nous avoir raconté ce soir votre combat. Merci d'avoir été notre invitée.
Merci à vous.
RTL Soir se poursuit dans un instant. Il y aura à la fois vos dessous de l'actu et laissez-vous tenter dernière, les dessous du vaccin contre la grippe aviaire avec les premières volailles qui le testent en quelque sorte en ce moment dans le sud-ouest, et puis laissez-vous tenter dernière avec une légende du cinéma français. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
Bonne fin de journée, RTL Soir à vos côtés, quasiment 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
L'heure de vous rappeler les trois grands titres de l'actu du soir, et c'est Agnès Bonfillon bien entendu qui s'en charge.
Annonce Paolini, l'ancien patron de TF1, dit comprendre la souffrance des femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor d'agression sexuelle et de viol. Il assure ne pas avoir été au courant au moment des faits présumés dans une émission diffusée ce soir chez nos confrères de Mediapart. Émission dans laquelle 20 femmes témoignent ensemble et racontent ce qu'elles ont vécu. Atelier formation pour la majorité présidentielle en vue des législatives de juin. Les candidats se sont réunis aujourd'hui au doc d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Emmanuel Macron vient tout juste de les rejoindre. Le ministère public de la Cour de justice de la République requiert le renvoi devant la Cour donc de l'ancien avocat et actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Mise en examen pour prise illégale d'intérêt.
Merci Agnès. Le temps pour demain, Peggy, toujours beau, toujours chaud.
Exactement, du sud-ouest au nord-est en passant par la région centre, on s'assoit souvent autour des 30 degrés, 32 à Auch, 31 à Agen et Clermont-Ferrand, 30 à Lyon et Bourges et Strasbourg, 28 à Montélimar, 27 à Paris, 25 à Perpignan, 22 à Nantes et 18 à Brest. Des températures en baisse sur le nord-ouest où le ciel sera chargé en Bretagne le matin jusqu'au pays de la Loire et de la Normandie l'après-midi avec quelques faibles pluies. Ailleurs, ce sera du beau temps après dissipation des grisailles matinales.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir de la vaccination des volailles. C'est peut-être l'avenir face à la grippe aviaire. 16 millions de bêtes ont été abattues depuis novembre pour tenter de sauver la filière. Un vaccin est donc testé depuis ce matin. Bonsoir Philippe de Maria.
Bonsoir Julien.
Alors ce test, il se déroule dans deux exploitations, c'est ça ?
Oui, exactement. Un essai en Dordogne, un autre ici dans les Landes. L'Agence nationale de sécurité alimentaire mène cette expérimentation avec l'interprofession. Alors, on va tester deux vaccins, observer leur efficacité face à cette grippe aviaire. Si ça marche, campagne générale de vaccination des animaux possible seulement en 2023.
Et sur le terrain, vous êtes allé voir aujourd'hui les éleveurs. Vous avez notamment rencontré un exploitant qui, par deux fois, a dû abattre toutes ses bêtes. Ils sont plutôt pro-vaccin, les éleveurs ?
Ah, c'est un grand oui, sans suspense. Quand la grippe frappe une exploitation, comme ce fut le cas pour Jean-Pierre Dubroca à deux reprises, vous le disiez, c'est, on peut le dire, je crois, un véritable traumatisme.
Très dur moralement à vivre. Déjà, quand c'est pas loin, on a peur que ça arrive jusqu'à chez vous. On essaye à chaque fois de ralentir pour essayer que ça se propage pas. Au final, les deux fois, même si on a ralenti un peu plus en 2021 qu'en 2020, ça finit par arriver quand même. J'ai vécu deux fois le chargement des animaux pour abattre sur une plateforme. Voilà, c'est impactant.
Impactant, dit Jean-Pierre Dubroca, traduisait plutôt très douloureux. À noter que Jean-Pierre a été indemnisé par l'État, d'ailleurs plutôt bien sur sa perte de chiffre d'affaires, Julien.
Le vaccin, Philippe, c'est un outil complémentaire parce que vous l'avez constaté aujourd'hui, les mesures autour des bêtes, elles sont déjà drastiques.
Exactement, ouais. Pas question pour moi, par exemple, en arrivant sur l'exploitation, d'approcher ni même d'apercevoir les canards de Jean-Pierre.
Il y a une zone professionnelle définie où on évite tout mouvement. Voilà, là on est dans la zone privée, bon, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas dans mon élevage, dans la tenue où je suis là. On se change, on fait des efforts de protection. Il faut aller jusqu'au bout de l'idée en faisant en sorte que personne d'autre ne visite votre élevage.
Et d'ici 2023, une potentielle vaccination générale des canards, il faudra négocier au plus haut niveau pour exporter ces mêmes animaux. Certains pays sont plutôt réticents en fait à acheter des animaux vaccinés contre la grippe aviaire.
Les dessous du vaccin face à la grippe aviaire, testé donc depuis aujourd'hui dans le sud-ouest. Merci beaucoup pour vos explications, Philippe de Maria.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h quasiment 34 minutes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et oui, laissez-vous tenter, dernière maintenant, comme chaque soir, de jolis moments avec la jolie bande de LVT. C'est Stéphane Boutsock qui est avec nous aujourd'hui, donc on va parler fatalement cinéma. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir tout le monde.
Vous nous proposez aujourd'hui une rencontre avec une légende du cinéma français.
Allez, on va jouer, Julien.
Vous êtes joueur.
Qui suis-je ? Attention. J'ai bientôt 85 ans. Je parle du personnage, hein, pas de moi. J'ai bientôt 85 ans. Je fais du cinéma depuis 62 ans. J'ai attiré plus de 140 millions de spectateurs dans les salles. J'ai reçu, entre autres trophées, une Palme d'Or et un Oscar. Et je prépare en ce moment le deuxième volet de mon 50e film. Je suis...
Je ne sais pas, mais vous imitez très bien Julien Lepers.
Claude Lelouch.
Ah, Claude Lelouch, bah, bien
oui,
sûr,
héros
évidemment.
Du documentaire Tourné pour vivre de Philippe Azoulay. Passionnant voyage en immersion, ça a duré 7 ans à travers le monde, dans les coulisses, le quotidien du cinéaste. On va le voir travailler, partir en repérage, tourner, faire la promo, encaisser les échecs, savourer les succès. Bref, vivre pour ce 7e art auquel il a consacré sa vie.
Et vous avez rencontré Claude Lelouch pour nous en lui demandant de commenter ce documentaire sur sa vie.
Et d'abord en lui faisant remarquer que ses admirateurs, comme ses détracteurs d'ailleurs, sont au moins d'accord sur une chose. Le cinéma façon Lelouch, c'est le reflet de sa vie partant du principe qu'il écrit ses films en les tournant.
J'ai le sentiment d'avoir fait qu'un seul film en 50 épisodes. Je radote, je raconte toujours les mêmes choses. Mais c'est bien les gens qui radotent, parce que ça veut dire qu'ils sont sûrs de ce qu'ils disent. J'ai passé ma vie à observer le genre humain, qui est un spectacle extraordinaire. La vie est un jeu fabuleux. Et comme dans tous les jeux, il faut détecter les tricheurs. Et il se trouve que les tricheurs sont très photogéniques. De film en film, chacun de mes films invente celui d'après. Là, le prochain film va tenir compte, effectivement, un peu du dernier qui n'a pas très bien marché. Je vais me servir de ça. Voilà, donc le prochain va s'appeler « La folie des sens », parce qu'on a fabriqué un monde de fous. Les enfants gâtés que nous sommes sont en train de devenir fous, Voilà, et c'est cette folie qui sera au cœur de mon prochain film.
Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce prochain film, dont le tournage est prévu à l'automne-hiver, devrait comporter des images de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, que Claude Lelouch a en partie filmé, mais aussi, il l'espère, celle de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Ah oui. Casting secret pour l'instant. En attendant, ne ratez pas Tournée pour vivre, que vous aimiez ou pas Lelouch, d'ailleurs, vous apprendrez plein de trucs. Film de Philippe Azoulay, ça sort demain en salle.
Courez au cinéma et on reparle cinéma, bien entendu, avec vous dès 6h20 demain matin.
Mais bien sûr.
Laissez-vous tenter, première avec toute la bande des petits matins. Merci beaucoup Stéphane, à demain.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et la suite dans un instant dans RTL Soir, c'est bien entendu On défait le monde avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, le trio qui arrive en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Dans un instant, tous ensemble, on va défaire le bracelet électronique, ce qui en soi déjà n'est pas une mince affaire.
Ah bah non.
François Fillon se pourvoit en cassation, donc il va y échapper, mais c'est vrai que c'est devenu un peu l'accessoire à la mode de certains détenus médiatiques qui du coup restent à la maison. Comment fonctionne-t-il ce bracelet électronique? Démonstration en quelque sorte juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.